Revenons-en à notre ami Platon. Platon, pour moi, c'était important d'y consacrer quand même un peu de temps, parce que, comme je l'ai dit l'autre fois et je vous le rappelle, la question de l'étranger, chez Platon, n'est pas une question qui a été traitée dans un livre ou deux, comme un thème parfaitement défini. La question de l'étranger chez Platon est très présente, je dirais qu'elle est omniprésente, mais elle traverse, on pourrait dire presque tous les livres d'une certaine manière de Platon, en tout cas un certain nombre. On butine dedans, enfin quelques-uns en tout cas. Donc ça crée une difficulté. D'autre part, Platon aborde la question de l'étranger à travers des discours, des livres de statuts différents. Et je rappelle que nous avions pointé avec l'aide d'Henri Joly, grand helléniste qui est mort maintenant, trois niveaux de discours chez Platon où il est question de façon significative de l'étranger. On avait commencé avec le premier niveau de discours. Ce sont les discours, et donc les livres, descriptifs, qui rapportent des faits. Des faits par rapport aux pratiques athéniennes, ce qui se passe à Athènes, ou des faits, des observations qu'on pourrait dire ethnologiques, parce que, je le rappelle, je l'avais dit déjà, Platon, contrairement à ce qu'on croit, était un voyageur. Il a découvert, et par une grande curiosité intellectuelle, d'autres pays, d'autres cités, d'autres peuples, d'autres nations, tous ces termes étant approximatifs, appliqués à la Grèce antique. Ça, c'est le premier niveau de discours. Le deuxième niveau de discours est normatif. Alors, normatif à deux niveaux, c'est-à-dire que Platon évoque les normes, les lois qui traitent de la question du rapport à l'étranger. Dans les deux sens d'ailleurs, comment la cité doit-elle se conduire par rapport à la venue d'étrangers en son sein, et aussi comment des Athéniens, en quoi des Athéniens peuvent aller à l'étranger. Donc ça, c'est les lois, c'est toute la dimension normative qui a deux dimensions encore, deux sous-dimensions. Il s'agit à la fois pour Platon de dire, de décrire l'état des lieux d'Athènes, quelles sont les lois et comment ça fonctionne à Athènes, sa cité. Et il s'agit aussi pour Platon d'énoncer des préconisations dans une espèce de cité idéale. Et ce n'est pas toujours évident de distinguer les deux niveaux, c'est-à-dire de distinguer ce qui, dans le discours de Platon, est de l'ordre du constat, comment ça fonctionne à Athènes, et de ses préconisations, comment ça devrait fonctionner. Et le troisième niveau de discours, c'est un niveau critique, voilà, méthodologique, critique, où Platon, et c'est le niveau au fond le plus intéressant, on terminera par lui, Platon tente de réinterroger, de remettre en cause les représentations communes sur l'étranger, et y compris les erreurs de méthode que lui-même a pu commettre quand il aborde la question de l'étranger. Voilà, donc tout ça pour dire, donc à la fois la dispersion des textes, ensuite les différents niveaux de discours, tout cela fait qu'il est très difficile d'essayer de cerner quelle était la philosophie de l'étranger chez Platon. Et c'est pour ça qu'on lui fait allègrement dire tout et son contraire. Tout et son contraire, c'est qu'en gros, vous verrez des textes, des discours qui diront Platon était complètement xénophone, athénocentré, il avait une position très dure par rapport à l'étranger. Et d'un autre côté, des discours au contraire très ouverts, disant Platon a un intérêt majeur pour l'étranger, était très ouvert, non pas xénophobe, mais xénophile. Mais cette complexité, c'est ça qui est passionnant, ce n'est pas qu'un problème de vérité historique ou de vérité de l'histoire des idées, c'est aussi un problème de justesse de la réflexion sur l'étranger, y compris pour aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis frappé de constater comment les contradictions qu'on trouve chez Platon ou les tensions sur la question de l'étranger, on les retrouve complètement aujourd'hui dans le débat actuel, dans les positions actuelles des uns et des autres, etc. En fait, de ce point de vue-là, on voit que ce que montre la philosophie aussi, c'est que, certes, l'histoire nous a induit dans l'idée d'une évolution historique. L'histoire nous a induit dans l'idée encore plus marquée d'un progrès historique. Mais on se rend compte qu'à un autre niveau, et notamment le niveau qu'on peut dire des idées, des mentalités, donc aussi, Eh bien, il n'est pas dit qu'entre les Grecs il y a 2500 ans et nous aujourd'hui, il y ait réellement d'évolution. On peut considérer qu'on est peut-être sur les mêmes questions, les mêmes débats, sans qu'il y ait véritablement de transformation essentielle. C'est-à-dire qu'à côté de cette vision du monde marquée par l'idée d'évolution, de progrès, etc., l'idée de l'histoire qui fait qu'on se baigne jamais deux fois de suite dans la même eau du fleuve, ça c'était la formule d'Héraclite, un philosophe pré-socratique, c'est-à-dire avant Socrate, avant Platon. Vous savez, le débat qu'a fondé la philosophie avant Platon, c'est le débat entre Parménide et Héraclite. C'est deux philosophes qui tiennent des positions radicalement opposées, et dont toute la philosophie a fait son miel, mais s'en est jamais sorti. C'est-à-dire qu'en gros, Héraclite pense que on est toujours dans le devenir, donc l'eau du fleuve n'est jamais la même, et Parménide, lui, met l'accent sur la permanence de l'être. Sur le fait qu'au contraire, le monde obéit à une permanence, une fixité d'une certaine manière de l'être. Donc, s'il est clair que l'histoire, la science historique, la philosophie historique, des gens comme Michel Foucault ont mis l'accent sur les transformations, les évolutions, les changements, et souvent avec l'idée de progrès, encore une fois, on peut appréhender le temps à un autre niveau. Et c'est au fond ce que nous montre la philosophie, au contraire sur l'idée qu'il y a une espèce de permanence qui est qu'on retrouve encore une fois les mêmes questions, les mêmes débats, les mêmes enjeux, les mêmes impasses à 2500 ans d'écart. Après, deux choses. Le statut de l'expérience. Est-ce que l'expérience peut produire un savoir qui fait bouger ou pas? Et alors, la deuxième question, c'est la question de la transmission. Est-ce que la transmission est à l'heure ou est-ce que la transmission est une réalité, une fonction humaine, anthropologique, importante? Les sensations, par exemple, les historiens des mentalités l'ont montré à Alain Corbin, la répulsion pour le sale, par exemple, n'est pas qu'un problème d'expérience de l'instant. Alain Corbin, c'était le grand philosophe. Premier traducteur en France d'Heidegger, d'ailleurs, et qui après s'est spécialisé dans la philosophie ismaélienne, et c'est Christian Jambet qui en a pris la relève. Et Alain Corbin, dont je parle là, c'est un grand historien français des mentalités. Et Alain Corbin montre que le rapport au sale est un rapport culturel et non pas instinctif. C'est-à-dire qu'en gros, même du temps de Louis XIV, ce qu'on admettait comme normal et qui nous répugnait pas, n'a rien à voir avec aujourd'hui. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, et les différences culturelles existent. Sans tomber dans le différentialisme, les différences culturelles existent. Précisément, la philosophie a pour objet de faire la critique des discours, c'est-à-dire la critique des représentations. Et une méthode critique par excellence des représentations, c'est précisément de confronter les représentations. Alors après, selon les philosophes, ça prend différents chemins, de confronter les représentations à leur fondement. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui les détermine? Et à partir de là, on met à jour ces décalages. Ça, je dirais que c'est le béaba de la démarche philosophique. De déconstruire les représentations, les bonnes idées. Et les bonnes idées morales, c'est de l'ordre des représentations. Comme disait Marx, c'est une espèce de voile. Il parlait de l'idéologie, mais l'idéologie, c'est des systèmes de représentation, de voile sur la réalité. En même temps, je suis frappé par le fait qu'à l'occasion du Salon du Bourget, là, vous avez pu en lire des articles, entendre des commentaires, l'aéronautique est un des secteurs industriels qui se porte le mieux et qui a les plus grandes perspectives de développement. Parce qu'on prévoit, et je crois que c'est une prévision juste, sauf catastrophe, un accroissement des commandes d'avions sur les 20 années à venir considérable. J'ai plus en tête les chiffres, mais peu importe les chiffres. Et cet accroissement des commandes d'avions provenant de l'accroissement exponentiel des voyages. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est dialectique. C'est-à-dire qu'en gros, la mondialisation est un mouvement qui crée une dynamique de tension entre des pôles opposés. Il faut penser les deux à la fois. C'est-à-dire, d'un côté, ça crée un trouble universel sur les identités collectives, mais d'un autre côté, ça fait tomber des représentations aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui voyagent de façon touristique dans des ghettos. Mais moi, je suis frappé quand même par le fait qu'il y a une plus grande connaissance tendanciellement aujourd'hui des peuples d'à côté, mais même déjà à l'échelle de l'Europe. L'effet d'Erasmus, par exemple, est intéressant. Par exemple, Erasmus, qui existe depuis maintenant 20 ou 30 ans, je ne sais plus, produit un nombre de mariages mixtes très important. Donc, il y a les deux aspects, quoi. Il y a les deux mouvements qui avancent. Encore une fois, je crois qu'il faut penser toujours les choses de façon non réductrice, en tenant en compte les tensions entre des forces, des logiques opposées, quoi. Mais ce qui est clair, c'est que quand Marco Polo, les jésuites, allaient au XVIe, XVIIe siècle en Chine, ça n'a plus aucun rapport avec aujourd'hui la façon dont un Européen va aller en Chine, quoi. Enfin, il n'y a plus le même rapport, dans les deux sens, d'ailleurs. Il y a un très beau roman de Richard Dembo, qui est un roman qui restitue l'expérience des jésuites en Chine, qui est assez étonnant, qui montre bien les choses. Et on voit qu'on n'est plus du tout dans la même période. Alors, il y a le revers de la médaille de ça, c'est-à-dire que c'est déjà Lévi-Strauss dans Triste Tropique qui avait pointé le fait que l'ethnologie tuaire n'aurait plus d'objet, parce que bientôt il n'y aurait plus de société différenciée du fait de la mondialisation. Déjà de son temps, Lévi-Strauss avait pointé ça d'une façon très pessimiste et nostalgique, triste, Triste Tropique. Et c'est vrai que le mouvement qu'il avait pointé n'a fait que se développer par la suite. Et en même temps, ce qui est intéressant, un jeune anthropologue là, qui est directeur au Quai Branly, vous savez, Julien Clément, qu'on avait fait venir, l'a montré, c'est qu'aujourd'hui, les anthropologues, ou Catherine Clément par rapport à l'Inde aussi, sont en train de découvrir le fait qu'il y a à la fois un mouvement d'homogénéisation des pratiques sociales, des mentalités, du fait de la mondialisation, mais qu'en même temps, il y a un mouvement de différenciation, c'est-à-dire qu'il y a les deux aspects qui coexistent, par exemple, en Inde, mais il prenait aussi l'exemple de l'île à propos du rugby, mais de l'île Samoa, et bien, c'est les mêmes constats, que ce soit dans l'Inde traditionnelle ou à Samoa. Le constat, c'est qu'il y a d'un côté, on va dire, une occidentalisation, mais d'un autre côté, ces peuples gardent leur spécificité en les faisant évoluer. Mais en les faisant évoluer, pas seulement dans une convergence avec le modèle occidental, en les faisant évoluer du point de vue de leur logique propre. Et il y a toujours les deux mouvements. Là aussi, je crois que les choses sont très complexes. Mais même l'Europe, par exemple, qui a évolué quand même par certains aspects, on constate que dans chaque société qui compose l'Europe, il y a eu une assimilation constante d'éléments exogènes, hétérogènes. Et les sociétés ont besoin d'assimiler des éléments extérieurs en même temps. C'est aussi indispensable, sans pour autant qu'elles se perdent. Après, là encore, il faut penser la tension entre les deux, les conditions de la tension entre les deux, mais on ne peut pas s'en tenir à un fil. Il faut tresser les deux fils. C'est-à-dire que l'exogène était une réalité permanente, mais même dans la Grèce antique, et Platon le dit, on va le voir, Athènes est aussi contaminée par l'étranger, alors qu'ils se protègent complètement, a priori. Et en réalité, ils ont besoin de l'étranger. Et sur un point qui est d'une actualité déterminante, que Platon constate et reconnaît comme nécessaire et positif, c'est que comme les citoyens d'Athènes, normalement, ne peuvent pas travailler à un métier, parce que est considéré qu'être citoyen, c'est en soi une activité à plein temps. Donc un citoyen ne peut pas être en même temps charpentier, tout ce qu'on veut, éleveur. Du coup, Athènes a besoin des étrangers pour exercer les métiers que les Athéniens ne peuvent et ne veulent faire. On retrouve le même schéma qu'ici. Pourquoi il y a autant de Turcs en Allemagne? C'est pour des raisons de besoins économiques. Pourquoi en France, au départ, il y a autant de gens d'origine polonaise, d'origine italienne, d'origine maghrébine, portugaise? C'est pour des raisons économiques. Donc c'est là que les choses sont troublantes et amusantes, c'est que entre Athènes et l'Europe d'aujourd'hui, on retrouve les mêmes constantes. Ce qui veut dire, pour conclure sur ce point, qu'en même temps, l'intrusion de l'autre dans une société crée des effets de perturbation qui peuvent, dans certains cas, aller jusqu'à la destruction de la société qui accueille, qui reçoit, mais en même temps, la société qui reçoit peut l'utiliser positivement d'accueillir des éléments qui viennent de l'extérieur, exogènes. C'est les deux à la fois. Revenons-en plus précisément aux détails de Platon. Donc, sur le premier niveau de discours, on avait vu la dernière fois le texte. Alors, dans l'Apologie de Socrate, vous savez que c'est relatif au procès de Socrate. Et ce qu'il apparaît clairement, c'est que Socrate, qui est le plus athénien des Athéniens, c'est-à-dire que c'est un souche, comme on dirait ici, à 100%, commence à tenir un discours au juge qui l'accuse, le discours qu'il est étranger, qu'il parle dans une langue étrangère par rapport à eux. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça pointe justement la complexité des choses. C'est les étrangers de l'intérieur, pour le coup. Donc, je ne veux pas revenir plus, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, sur ce premier niveau de discours concernant le discours descriptif de la réalité athénienne. Si j'ajouterais cela, notamment c'est dans l'Alcibiade. Socrate critique sévèrement la position du jeune Alcibiade. Donc le jeune Alcibiade, c'est un personnage important à Athènes qui est promis à une très brillante carrière politique et d'une certaine manière, il est en formation quand il est dans ce dialogue avec Socrate restitué par Platon, enfin réinventé par Platon. Donc Alcibiade, c'est important parce que c'est un personnage qui en dit long sur la vision politique des Athéniens. Il veut le pouvoir, et de ce point de vue-là, il est démagogue, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il se veut un conducteur du peuple, ce que veut dire démagogue. Donc, il est le reflet des opinions dominantes à Athènes. Et Alcibiade est en train de dire que parmi les chefs militaires et politiques des différentes cités, seuls les chefs d'Athènes sont bien, en gros. Et il critique les autres pour leur moindre valeur, les lacédémoniens, etc. Et Socrate reprend Alcibiade à partir d'éléments anthropologiques où il montre que Alcibiade se trompe complètement. Il est victime de clichés, de représentations toutes faites, mais sur différents points, ces chefs étrangers ont de plus grandes qualités et donc leur peuple ont de plus grandes qualités que les Athéniens. Alors, il prend notamment trois dimensions de cela, le génos, trois dimensions qui font la qualité d'un homme pour les Athéniens et pour Alcibiade. Le génos, c'est-à-dire, c'est en gros la race. La race, c'est-à-dire la force, la qualité propre, la constitution, je dirais presque naturelle, d'un peuple. Le génos a donné en français, par exemple, le mot eugénie, eugénisme. C'est-à-dire que la sélection naturelle, ou artificielle d'ailleurs, en éliminant ceux qui ont des défauts, c'est ce que les nazis ont voulu développer, hein, pour avoir une race noble, pure, sans défaut. Par exemple, on élimine à la naissance les handicapés, etc. Enfin bref. Le deuxième critère que Socrate prend en compte, à partir du discours d'Alcibiade, c'est l'éducation, la qualité d'éducation. Donc, le premier critère, on pourrait dire que c'est la nature, c'est l'être au naturel, au départ, à la naissance. Ensuite, il y a la culture, l'éducation, trophée en grec, T-R-O-P-H-E. Et la troisième dimension, le troisième critère qui est pris en compte dans ce dialogue, c'est ploutos, P-L-O-U-T-O-S, c'est la richesse. Et donc, à partir des observations de la connaissance, à partir d'observations liées à des voyages, etc., Socrate, Platon en l'occurrence, montre à Alcibiade qu'il se plante complètement, que les chefs et du coup les peuples étrangers qu'il prenait en exemple sont supérieurs aux Athéniens. Supérieurs aux Athéniens parce qu'ils sont d'une race plus robuste et plus pure, avec moins de défauts, que leur éducation est meilleure, et troisièmement, qu'ils sont plus riches. Donc là, on a un mouvement intéressant où Platon remet en cause les lieux communs vis-à-vis de l'étranger qui étaient en cours à Athènes. Donc voilà, ça c'est dans l'Alcibiade. Et donc, il y a une dimension là intéressante de cet exercice critique des représentations de soi et de l'étranger qu'opère la philosophie de Platon. En fait, les Athéniens sont peu flattés de la part de Platon-Socrate. Et surtout, il induit déjà la méthode ethnographique, c'est-à-dire que Pour faire tomber les représentations toutes faites de l'étranger, il faut voyager, il faut avoir un regard ethnographique dont la méthode suppose le décentrement de soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, Platon, par rapport à Alcibiade, fait la critique de l'ethnocentrisme. Il montre comment l'ethnocentrisme ne permet que d'avoir des clichés, mais ne permet pas d'avoir un regard vrai sur soi et les étrangers. Par contre, en contrepoint, si on considère un autre livre de Platon où il est question de l'étranger de manière significative, ce livre, c'est le Ménexène. M-E-N-E-X-E, accent grave, N-E, Ménexène. Alors là encore, Ménexène, ça paraît un mot bizarre, comme quasi tous les dialogues de Platon, les livres de Platon, presque tous, on a donné comme titre du livre le nom de l'interlocuteur principal de Socrate, ou éventuellement, j'y viendrai après, si ce n'est pas Socrate, de l'autre interlocuteur principal qui est l'étranger, qui n'est pas nommé. Donc Ménexène, c'était un personnage important à Athènes, un politicien important à Athènes, tout simplement. Dans Ménexène, on a un discours très différent, où il apparaît quoi? Là, il apparaît une forme d'athénocentrisme, où est affirmée la beauté de la race des Athéniens. En grec, c'est eugénia. On retrouve en arrière-plan Eugénie. L'égalité de naissance. Alors, ce qui est un critère important pour Platon quant aux conditions de la démocratie athénienne, il faut qu'il y ait un plan d'égalité. Mais d'égalité qui suppose une homogénéité. Il faut que le peuple athénien soit homogène. Donc, en grec, c'est l'isogonia. Iso, ça veut dire égal en grec. Ce qu'on retrouve dans plein de mots français. Donc il affirme qu'il y a une égalité de naissance, de type humain à Athènes, l'isogonia, qui est, affirme Platon-Socrate, la condition nécessaire pour qu'il y ait une isonomia. Donc iso égale, nomia. Ça vient du mot qu'on a souvent rencontré, nomos, qui est la loi. La loi, la norme. Donc l'isonomia, c'est une égalité juridique, une égalité de statut. Donc il faut qu'il y ait de l'isogonia pour que l'isonomia soit possible. C'est que s'il y a de l'hétérogénéité au sein d'une cité, l'égalité de droit pose problème. Et il y a une troisième dimension, bon, que je ne commente pas, c'est le courage dans les combats, le courage dans la guerre, qui est là aussi une caractéristique de l'Athénien. Alors, comment voir ce discours qui semble aller à l'encontre totalement de ce que j'ai développé avant à propos de l'Alcibiade et de la critique que Socrate fait des positions d'Alcibiade? Alors on peut dire, ben Platon il dit n'importe quoi et il n'est pas cohérent, ça ne forme pas de système. Alors on ne peut pas s'en tirer comme ça. C'est simplement que le Ménexène, et ça c'est clairement établi, est un discours qui est pensé dans une situation de guerre entre cités. Et notamment, il est nourri de l'expérience marquante et traumatisante qui n'est pas loin des guerres du Péloponnèse. Donc des guerres qui ont été violentes, où Athènes a perdu plusieurs manches, entre Athènes et Sparte, une autre cité. Et alors, ce qui est clair, c'est qu'en temps de guerre, on ne peut pas avoir la même position qu'en temps de paix. Qu'en temps de guerre, une société ne peut tenir que si elle remplit d'une certaine manière ces conditions-là. Donc on voit que ces questions sont compliquées et à tout le moins, ce qu'on peut retenir, si on réfléchit vraiment de façon, je dirais, honnête, sans préjugés moraux, idéologiques, c'est vrai qu'une société en état de guerre ne peut fonctionner et de fait ne fonctionne pas comme une société en état de paix. Alors ça, c'est un débat qui a traversé la philosophie politique jusqu'au XXe siècle. Et encore aujourd'hui, un grand philosophe allemand qui est Carl Schmitt a été largement commenté et encore commenté aujourd'hui autour de la notion qu'il met en avant de l'exception, de l'état d'exception dans les situations de guerre, par exemple. Donc le Menexen, on ne peut comprendre ses positions développées par Platon vis-à-vis de l'étranger que si on resitue la réflexion qui est déployée dans ce livre dans un contexte de guerre. Et de fait, l'essentiel du livre se présente comme une oraison funèbre. Oraison funèbre, c'est un pastiche, en fait, ce livre est construit comme un pastiche, d'une certaine manière, d'oraison funèbre qui avait cours à Athènes par rapport à des soldats morts au combat. Et d'une certaine manière, c'est un pastiche qui, du coup, a un double mérite. D'une part, il permet de comprendre, c'est un témoignage, comment à Athènes, en guerre, on pensait les choses par rapport à l'étranger. Et aussi, il faut y voir, donc là, il faudrait prendre le livre de A à Z pour le démontrer à travers le style, il faut y voir dans ce pastiche une forme d'ironie de Socrate. C'est en même temps un texte ironique qui à la fois, alors c'est très subtil, va dans le sens des positions d'Athènes en état de guerre, donc faut le lire au premier degré, et ce que j'ai dit avant sur cet athénocentrisme, faut l'entendre comme tel, en état de guerre, mais en même temps, il y a une charge critique, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est comme si Socrate n'y croyait pas vraiment. Et de fait, Socrate ne sera plus Socrate, qui a passé sa vie jusqu'à être condamné à mort, à remettre en cause les clichés de la société athénienne. Socrate ne serait plus Socrate. Si on interprétait ce pastiche qu'il fait d'une oraison funèbre, seulement au pied de la lettre. Donc là aussi, il faut avoir une lecture extrêmement subtile, qui est qu'à la fois, il faut prendre à la lettre ce discours, et en même temps, il faut y voir une mise en doute. Et donc, à ce titre-là, ce texte exemplifie parfaitement la complexité de Platon sur ces questions du rapport à l'étranger. Et de fait, si on raccroche à d'autres livres, notamment l'Apologie, l'Alcibiade, etc., on se rend compte que Platon a toujours développer une note critique, une distance critique par rapport à l'athénocentrisme. Donc, on arrive à un premier point, à une première conclusion, où Platon à la fois affirme une philosophie politique marquée par la nécessité d'une forme d'homogénéité, d'égalité des citoyens au sein d'une cité pour que la cité soit cohérente. Est forte. On retrouve là la primauté de l'un chez Platon sur le pluriel. Une cité bariolée, c'est le mot qu'on utilise généralement pour traduire le mot grec qui revient assez souvent chez Platon, qui est poikileia, poikilos, P-O-I-K-I-L-O, alors I-A, O-S, selon les déclinaisons. Ce bariolage, Platon va constamment le critiquer, le mettre en doute. La multitude bariolée d'un peuple, pour Platon, c'est un danger. Par rapport à la nécessité d'une unité qui passe par une forme d'homogénéité. Donc, d'un côté, chez Platon, ceci est très fort. C'est pour ça que beaucoup, et c'est la thèse classique, on peut dire que Platon développait une philosophie de l'identité. Et en même temps, si on regarde de près les livres que j'ai évoqués et d'autres encore, On se rend compte que Platon met surtout en avant une méthode, c'est-à-dire que pour lui, la philosophie, c'est avant tout une méthode de pensée qui est une méthode critique. On pourrait dire que pour Platon, et c'est lui qui invente ce qu'est la pensée philosophique, pour Platon, la philosophie et la pensée commencent là où on remet en cause la doxa, D-O-X-A. C'est, la doxa, c'est l'opinion commune, l'opinion toute faite, ce qu'aujourd'hui on appelle l'opinion publique. Et un platonicien conséquent critiquerait aujourd'hui fortement la démocratie politique dans nos sociétés en disant que c'est une démocratie d'opinion, c'est une démocratie où ne valent que les opinions, la doxa, et que les orientations politiques ne sont définies que par la doxa. On en veut pour preuve la suprématie des sondages d'opinion dans la vie politique actuellement. Donc un platonicien conséquent, et le sociologue Bourdieu, Pierre Bourdieu, était platonicien conséquent de ce point de vue-là. C'était le premier à critiquer de façon extrêmement précise les sondages d'opinion. Dans un texte, un classique important qui était paru dans les temps modernes dans les années 60, donc ça ne date pas d'aujourd'hui tout à fait, où Bourdieu, en platonicien conséquent, montre l'illusion que constitue un sondage d'opinion. Donc, pour Platon, la doxa, c'est la pire des choses, et la philosophie ne commence que quand on passe d'un discours tout fait, en fait, même si l'on croit penser. Et Bourdieu, là-dessus, reprenait un propos platonicien, au fond, pas très éloigné par d'autres voies de la psychanalyse, sauf que la psychanalyse est anti-platonicienne. Donc, je laisse de côté la chose. Bourdieu disait, en fait, c'est une illusion de dire « je pense », il faut dire « ça pense en moi ». Illusion de dire « je dis ceci ou cela », ça dit en moi. Le « ça » en question, c'est quoi? C'est le dépôt en soi, un pensée en soi, le dépôt de la doxa, de l'opinion dominante ambiante. Et on voit bien aujourd'hui comment beaucoup de gens, mais tout le monde, à un moment donné, on n'exerce pas la pensée, tout le monde va tenir un discours sur un sujet qui, en fait, est souvent à son propre insu, n'est que la traduction de la doxa qui est restituée par le journal au sens générique du terme, hein, que ce soit les journaux, la télé, la radio ou les voisins. Et la philosophie de Platon consiste précisément, à travers la voix de Socrate, par exemple, à constamment réinterroger ce qu'on croit être une position pensée, en montrant que ce n'est que quelque chose de préconstruit, dont on n'est que le perroquet. Et si on n'est pas dans cette méthode, on ne peut pas prétendre penser, et penser philosophiquement a fortiori. Et donc, au fond, sur l'étranger comme sur plein d'autres sujets, Platon, c'est ça qu'il nous apporte. Il nous apporte la nécessité de penser la question en déconstruisant les a priori, les préjugés, les clichés, la doxa. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne considère pas qu'à certains moments, la pratique athénienne de l'étranger ne soit pas juste. Parce que la critique, il faut faire attention, la critique ne consiste pas à, contrairement à ce qu'on croit souvent naïvement, ça c'est la position adolescente de la critique, ou comme aurait dit Marx, la maladie infantile de la critique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut dégommer des positions établies. Il peut y avoir dans des positions établies du vrai, ou dans des pratiques établies du vrai. La critique n'est pas au sens, comme on le dit simplement, au sens purement négatif, c'est-à-dire de nier des discours établis. C'est d'en faire la part des choses pour voir d'où vient telle position de la doxa. Pourquoi on dit ça? Comment ça s'établit? Et à partir de là, on peut garder des choses qu'on tient pour vraies et remettre en cause d'autres choses qu'on tient pour illusoires. C'est tout ce mouvement-là. Et sur la question de l'étranger, au fond, Platon ne va faire que ça, et en particulier ce qu'il considère comme un discours de doxa sur l'étranger, c'est tous les discours athénocentrés, encore une fois. On dirait aujourd'hui européano-centrés, ethnocentrés. C'est les discours qui sont liés au fait que dans la vision du monde qu'on a, on se place au centre. C'est on se place au centre comme si on était la référence allant de soi. Et ce que nous dit Platon, c'est que les Athéniens fonctionnent comme ça. Et donc leur position, en gros, c'est, si je schématise, on est les meilleurs et tous les autres sont des cons. Et Platon n'a de cesse de montrer que ça ne permet pas de produire une pensée juste, exacte, juste au sens grec, c'est-à-dire à la fois de justesse et de justice, sur la question de l'étranger, du rapport à l'étranger, du rapport à soi et à l'étranger. Dans l'Alcibiade, on voit bien ce qui est en jeu. C'est ce débat où Platon ne veut pas savoir, a priori, si les chefs étrangers sont meilleurs ou moins bons que les chefs athéniens. Il dit, le décréter comme ça, c'est être dans la doxa, c'est-à-dire dans l'opinion toute faite. Ce qui importe à Platon, c'est le souci du meilleur, c'est le souci de l'excellence. Le souci du meilleur, c'est-à-dire de pouvoir évaluer où est le meilleur. Et que le meilleur soit du côté d'Athènes ou du côté des cités étrangères, peu lui importe. Ce qui lui importe, c'est d'établir où est le meilleur. Si c'est à l'étranger, il ne va pas s'opposer à cela. Si c'est dans Athènes, il ne va pas s'opposer à cela. Donc la question se déplace à partir de là. Notamment, là, si je prends dans l'Alcibiade, c'est par une méthode qui consiste à partir d'une observation. C'est une méthode pré-ethnologique. Sur le cas de l'Alcibiade, c'est clairement une méthode pré-ethnologique. J'entends par pré-ethnologique, non pas que ça serait moins fort que l'ethnologie, c'est que c'est avant que l'ethnologie n'existe. C'est-à-dire que c'est à partir d'observation, il en tire des conclusions. Il en tire des jugements de valeur. Alors, le meilleur, c'est ce qui est le plus près de l'être un. De l'être du bien. Pour Platon, l'être et le bien, le principe du bien, c'est identique. Donc, c'est ce qui est à la source de tous les étants, c'est-à-dire de tout ce qui existe. Mais selon une logique plus ou moins dégradée. C'est-à-dire qu'en gros, la pensée de Platon est clairement, il faut ne pas avoir peur de le dire, une pensée verticale. C'est-à-dire qu'il y a au sommet d'une espèce de pyramide le principe même de toute chose, le principe même du monde, des êtres, qui est l'être premier. Et à partir de là, il y a ce que les philosophes platoniciens ou néoplatoniciens appellent un processus qui est pro-odos, qu'on traduit par procession. C'est le mot le plus exact, même si aujourd'hui il a une connotation rituelle, religieuse, etc. Pro-odos, c'est une procession, un procès, un process, comme on dirait en allemand, un processus qui va du haut vers le bas en cascades successives. L'un va par la profusion de la vie et l'être, se diviser. Donc, on passe de l'un, qui est le principe du bien, le bien pur, à des dyades, un se divise en deux, puis la triade, et ainsi de suite. Ça crée des hiérarchies des existants, hiérarchies définies, du coup, qui définit le meilleur et le plus médiocre. Donc, le meilleur, c'est ce qui est le plus proche du haut. Et le plus éloigné de la source, c'est ce qui va avoir une qualité d'être la plus dégradée. Et ce qui est la qualité d'être la plus dégradée, c'est ce qui est le plus bas, c'est la matière. C'est la matière. Au bout du compte, c'est la matière qui est tout en bas. Alors, à partir de là, il faut admettre, non pas le dualisme, comme on le dit trop souvent, de Platon, ou l'idéaliste de Platon, qui fait qu'on a comme vision de Platon l'idée qu'il y aurait une dichotomie, une coupure entre l'âme et le corps, ou l'esprit et la matière. En fait, cette dichotomie n'existe pas, comme on veut bien le dire, et des philosophes ont montré qu'on pouvait lire Platon d'un point de vue matérialiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dit que c'est une dichotomie, alors qui est de bon ton dans la modernité de remettre en cause chez Platon, que c'est un dualisme, une dichotomie qu'il y a d'un côté l'esprit, de l'autre côté du corps, l'esprit tire vers le haut, le corps vers le bas, on omet un élément essentiel dans le dispositif de Platon, qui est prodos, la procession. C'est-à-dire qu'en gros, par définition, la procession, il y a une continuité. Ce qui veut dire que même la matière porte une trace du principe de l'un bien. Alors que penser les choses en termes dualistes consisterait à considérer que c'est séparé, quoi, totalement. Non, il y a une communication. Et c'est ça, je crois, qu'il faut retenir, même si, on va trouver dans des textes de Platon, et c'est le mythe d'Er, par exemple, E-R, qui est ce mythe du devenir des êtres après la mort, ceux qui se sont comportés, qui ont vécu selon le principe du bien, l'âme libérée du corps remonte en haut, retrouve l'être. Ceux qui ont vécu contre le principe du bien, leur âme, elle est condamnée à errer aux Champs-Élysées dans le séjour des morts. Et dans ce mythe d'Er, il faut reconnaître que Platon considère que la mort, c'est aussi une libération. Ce n'est pas qu'une catastrophe, bien au contraire, c'est une libération parce que l'âme s'est libérée de la prison matérielle du corps. Donc il faut aussi penser ça. Voilà, donc je ne peux pas m'étendre plus là-dessus. Il faut resituer la question de la recherche du meilleur chez Platon à la lumière de tout ce système. De même que pour Platon, il va de soi que l'art est une pratique utile qui consiste à se rapprocher de ce qui est un élément de l'un et du bien, qui est le beau. Chez Platon, il y a une équation parfaite entre donc l'un, l'être premier, le bien, le beau, le vrai, le juste. Tout cela est en équation parfaite. Le bien égale le beau, égale le vrai, égale le juste. Et c'est pour cela, mais il faudra en dire beaucoup plus en même temps, c'est vraiment des éclairages comme ça, impressionnistes, mais pour vous donner des repères raccrochés à d'autres choses. On pourrait montrer que c'est pour ça que la Renaissance au XVe, XVIe siècle en Europe, qui s'est voulu un retour à Platon. C'est-à-dire qu'au fond, la pensée de la Renaissance est une pensée néo-platonicienne, de retour à Platon. C'est pour ça que la Renaissance a produit un mouvement de création considérable dans le domaine, par exemple, de l'architecture, de l'urbanisme et de la peinture, et que les peintres, les architectes, les urbanistes avait un principe central qui est la perspective. Et la perspective, on en a déjà parlé, on peut l'interpréter de différentes manières, mais une des manières, c'est que la perspective obéit précisément à ce principe de l'équation entre le beau, le bien, le juste, le vrai, l'exact. La perspective étant avant tout un art, qu'on pourrait dire mathématique, de la juste proportion. Ce dont, par exemple, au Moyen-Âge, on n'avait pas du tout le souci. De la juste proportion, de l'exacte proportion qui produit le beau. Vous dessinez une rue en perspective, vous allez proportionner les immeubles, pas au hasard, selon un principe d'exactitude géométrique. Vous tirez les lignes de fuite. Voilà ce que traduit la perspective. Et c'est pas hasard du tout. Si la perspective qui se généralise comme principe à la Renaissance a à voir avec le retour à la philosophie de Platon, ça ne traduit que ce principe premier du platonisme qui est l'égalité, l'équation, l'équivalence entre l'un, le bien, le beau, le juste, l'exact. Alors, venons-en rapidement maintenant au deuxième type de discours, au deuxième type d'énoncé, qui sont les énoncés normatifs ou prescriptifs, c'est-à-dire qui sont relatifs aux lois, aux codes, aux normes. Alors, il faut savoir, bon, je rappelle ce que je disais déjà au début là, de la séance, ces énoncés prescriptifs ou normatifs chez Platon mêlent à la fois des énoncés où il restitue ce que sont les lois et les pratiques légales par rapport à l'étranger à Athènes, donc des énoncés de fait, et également des énoncés prescriptifs au sens strict, c'est-à-dire des énoncés où il avance des préconisations sur ce que devraient être les lois et le statut juridique de l'étranger dans la cité idéale. Il y a le mélange des deux dimensions. Alors, premier point qui apparaît, par exemple, dans les lois, le livre Les Lois, à la lecture de ce livre de Platon, c'est qu'à Athènes, il y a une législation extrêmement précise et très détaillée sur l'étranger. C'est-à-dire, les étrangers sont objets de lois nombreuses, précises, et sont soumis d'ailleurs à des dispositions réglementaires, légales, extrêmement précises et concrètes. Donc il y a un encadrement très précis de l'existence des étrangers dans Athènes. Et de même, il y a des dispositions légales extrêmement précises et concrètes sur l'Athénien qui part à l'étranger. Et les voyages à l'étranger pour les Athéniens sont réglementés. On ne peut pas partir comme ça à l'étranger. Ça existe encore aujourd'hui. Ne serait-ce que, par exemple, d'avoir un visa également. C'est revenu dans l'actualité par rapport à des jeunes Français d'origine arabe, par exemple, qui sont partis faire le djihad, la question de l'âge. Est-ce qu'un mineur peut partir tout seul à l'étranger ou pas? Dans quelles conditions? Autorisation parentale ou interdiction totale? Voilà. Ça, c'est des questions qui sont traitées dans le dispositif législatif à Athènes. Alors, que peut-on tirer de l'analyse que fait Platon de ces dispositions législatives? Plusieurs choses importantes. Le premier point, c'est que l'étranger a nécessairement, et toute sa vie durant, un statut différent que celui du citoyen. L'étranger ne sera jamais un citoyen à Athènes, très clairement. Il n'y a pas de possibilité d'être élevé à la citoyenneté athénienne. Autrement dit, il n'y a pas de dispositif de naturalisation. Il faut être clair. Mais en même temps, donc ça, c'est un principe d'exclusion légale, mais en même temps, l'étranger est admis, accueilli et connaît des formes d'intégration fortes, juridiquement établies. Voilà. Cela dit, il faut différencier deux catégories, au moins, on va dire deux pour un premier temps, deux grandes catégories d'étrangers. Il y a le métèque et le xénos, l'étranger-étranger. Alors, le métèque a un statut privilégié, contrairement à ce que le mot dans le langage courant de la langue française laisse entendre. Métèque, ça n'a pas de connotation péjorative, contrairement à aujourd'hui. Métèque, ça vient, je crois que je l'avais déjà dit, de méta oikos. Oikos, en grec, c'est la maison. Méta, c'est une préposition un peu compliquée dans ses sens, qui est polysémique, qui indique le mouvement, le changement, le mouvement, l'au-delà d'une situation. Par exemple, dans métaphysique, la métaphysique, c'est ce qui est le type d'énoncé de discours qui est par-delà la physique, par-delà la science de la nature, au fond, ce qui vient après. Donc, le méta-oikos, le métèque, c'est quelqu'un, tout simplement, qui a changé de domicile. Donc c'est celui qui n'est pas souche. Au sens strict, le métèque, c'est le non-souche. Mais c'est un statut, à Athènes, c'est un statut au sens où sa présence, ses droits interdits, obligations, devoirs, contraintes, sont définis par les lois. J'atténue ma première affirmation, selon quoi il n'y a pas de naturalisation possible, c'est qu'en réalité, dans la pratique, nombre de métèques bénéficiaient de droits et d'un statut similaire au statut de citoyen. Et ça, pas simplement en discours, mais en réalité, au sens où il y a des politiques, il y a des philosophes, il y a des personnages centraux à Athènes qui seront en fait des métèques. Le métèque est, sauf exception, un autre grec. Il parle la même langue, il parle la même langue, à ceci près qu'il y avait des variantes. Et d'ailleurs, les philologues sont obligés de tenir compte de ça. Il y a des termes, des mots qui peuvent venir de cités différentes. A fortiori, c'était le cas dans la Grèce antique, si on considère que, par exemple, en Italie à la Renaissance, il y a des langues, et même au-delà de la Renaissance. On peut montrer que la richesse de la littérature italienne contemporaine est marquée, une part de sa richesse est marquée par le fait qu'il n'y a pas une langue unifiée tout à fait. C'est-à-dire qu'un écrivain sarde, un écrivain sicilien, un écrivain napolitain, un écrivain vénitien, un écrivain toscan, eh bien, on trouve des différences, encore aujourd'hui, malgré l'unification de l'Italie politique et l'unification de la langue, comme le portugais. Donc le métèque, c'est avant tout quelqu'un qui parle grec, c'est-à-dire qui appartient à d'autres cités, mais on pourrait dire que, si on essaie de transposer à aujourd'hui quand même, on pourrait dire que la différence entre cités était non pas comme la différence entre un Marseillais et un Lillois, mais la différence entre les pays européens. La preuve, c'est que comme les pays européens jusqu'à il n'y a pas longtemps, encore aujourd'hui, d'ailleurs, si on prend l'ex-Yougoslavie, les cités grecques se faisaient la guerre. Et pas pour rire. Si ce n'est que c'est pas le même mot en grec. C'est-à-dire que la guerre, il faut penser les choses très subtilement toujours, hein. La guerre entre cités grecques ne se nomme pas de la même manière que la guerre avec les barbares. C'est-à-dire que le terme grec qui désigne guerre entre cités, c'est eris, E accentué R-I-S. On pourrait traduire ça, mais ce qui rapproche, en fait, c'est pas bien de le traduire comme ça. On pourrait traduire ça par guerre civile. Guerre civile gomme un peu trop le caractère. Mais en même temps, c'est compliqué parce que on peut nommer ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie guerre civile. Mais en même temps, c'était des langues, des peuples différents et qui sont devenus des nations, des états-nations différents. Et pourtant, on a nommé cela guerre civile à juste titre parce que c'était une guerre au sein d'un ensemble plus vaste. On pourrait, s'il y avait une nouvelle guerre entre pays européens, dans quelques temps, on pourrait dire que c'est plutôt de l'ordre de la guerre civile, peut-être. Et le terme qui désigne la guerre vis-à-vis d'autres, d'étrangers, de Xénos, de Barbaros, c'est polémos, P-O-L-E-M-O-S, polémos, qui a donné le mot polémique. Alors, pourquoi deux noms différents? C'est bien parce que, pour les Grecs et clairement pour Platon, c'était pas la même nature de guerre, quand même. Ceci souligne effectivement le fait que l'étranger grec, l'étranger hellénophone, et l'étranger barbarophone, c'est pas la même chose. Ceci pour dire que le terme barbaros, barbare, souvent on le traduit par non-humain. C'est-à-dire que les barbares pour les Grecs seraient des gens qui ne seraient pas des humains. Ceci n'est pas exact. Ceci est même faux. C'est exact d'un point de vue, c'est faux d'un autre point de vue. Il faut toujours penser les choses comme ça. C'est exact du point de vue où l'on considérerait que, dans la Grèce antique, l'humanisme n'a pas été inventé. C'est-à-dire que dans la Grèce antique, l'idée d'un universel humain n'existe pas vraiment. Il faut la Renaissance, le 16-17e siècle, pour que cette notion de l'humain universel existe. Donc en Grèce, ça n'existe pas. Donc ceci favorise l'idée que si par ethnocentrisme on considère que l'humain c'est soi, mécaniquement on considère que celui qui n'est pas soi n'est pas humain. Donc, sous cet angle-là, on peut traduire barbaros par non humain. Mais sous un autre angle, il est plus exact de dire que pour les Grecs et clairement Platon, le barbare, c'est le non hellénophone, celui qui ne parle pas la même langue, qui ne parle pas grec, ou une variante de grec. Très clairement. C'est ce qui explique que Platon, on verra dans le texte final qui est à mes yeux le plus déterminant, il ne considère pas que des Perses et autres, c'est des animaux, c'est pas des humains. Il sait en même temps que c'est des hommes, des humains. Mais c'est des humains non définis selon ce principe ou cette valeur de l'universel inventée au XVIe siècle. Je dirais ceci d'ailleurs. Rappelez-vous au tout début quand on a examiné l'ethnologie des campagnes polonaises avec Ludwig Soma. On se rend compte qu'aujourd'hui encore, celui qui est considéré comme venant d'ailleurs, celui qui n'est pas de souche, qui n'est pas d'ici, qui est même du village d'à côté, n'est pas vraiment considéré comme un humain. Souvenez-vous des représentations analysées par Ludwig Soma au début d'année. L'étranger, mais qui est déjà celui du village à côté, on lui prête des traits, des caractéristiques qui ne sont pas proprement humaines, qui sont surhumaines ou particulières. Donc ceci pour dire que cette notion que l'humain c'est soi et les autres c'est pas vraiment des humains, elle court jusqu'à aujourd'hui, malgré l'invention de l'universalisme et de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la tentation des clichés qui font des fausses divisions, humain, non-humain, etc. Et la question de la division en catégories, c'est une question essentielle de la philosophie. On terminera d'ailleurs sur cette question que Platon aura traitée magistralement. Mais je ne le développe pas maintenant. Le langage, simplement dire ceci pour que ça soit plus clair, le langage crée des catégories. Donc le langage et la pensée et le savoir ne procèdent que par division, on est d'accord. C'est même la base de la méthode dialectique. Tout procède par division. Descartes nous l'a encore appris. La méthode cartésienne, c'est une méthode de division. On sépare pour distinguer. Et on nomme différemment les choses qu'on a distinguées. Et le savoir, ce n'est que cela. Toute la question, c'est de faire des bonnes divisions et pas des divisions fausses. Et la division humain-non-humain, Platon nous montrera que c'est une division fausse, à propos des étrangers et des barbares. Donc, je reviens sur les énoncés normatifs, les lois. Donc, ce statut ambivalent de l'étranger qui fait que l'étranger hellénophone, qui peut être métèque, qui peut avoir le statut de métèque, est à la fois différent, mais peut, au bout du compte, avoir quasiment les mêmes prérogatives, les mêmes droits que le citoyen athénien, ce qui sera contesté par un certain nombre. Donc, admis et exclu à la fois. Par contre, c'est clair que le plus souvent, le barbarophone, le non-grec, aura un statut plutôt d'esclave. D'autant plus qu'il y a une pratique qui court sur toute la Grèce, le voyageur est soumis au plus grand risque. C'est pour ça que la législation diffère aussi par rapport à aujourd'hui. C'est que le voyageur court le plus grand risque d'être kidnappé par, on va dire, des gens dont c'est le métier de les kidnapper et de les vendre ensuite comme esclaves. Ça revient dans plein de pays. Et c'est les pratiques de Boko Haram, c'est les pratiques de l'État islamique, entre nous soit dit. Regardez comment Boko Haram enlève des jeunes filles. Le problème, c'est qu'ils vont les chercher jusqu'à chez elles. C'est quand même la différence. Parce que les États ne peuvent pas assurer la protection suffisante. D'où la question militaire quand même très importante à Athènes et dans toutes les cités grecques. C'est-à-dire qu'il fallait être suffisamment puissant pour se protéger des incursions extérieures. Et on voit comment le Nigeria, enfin tous ces pays-là, ne sont pas en mesure de. L'histoire de l'esclavage, c'est que cette histoire-là, c'est ceux qui s'éloignent de chez eux et qui vont être kidnappés pour être vendus comme marchandises. Et c'est pour cela que les navigateurs ont un statut à part qui pose problème pour Athènes et Platon, ceux qui sont sur les mers. Donc voilà, c'est le risque principal. Un voyageur n'a qu'une chance, si donc il a échappé aux kidnappeurs, aux maquignons, on va dire que c'est des maquignons, et qu'il atterrit dans une autre cité. On l'avait évoqué, sa chance, c'est de bénéficier de la protection d'un proxénos, qui a donné le mot proxénète, c'est-à-dire d'un protecteur, qui est quelqu'un de suffisamment puissant pour assurer la protection de ce faible qui est par définition le voyageur étranger. Alors, restons-en encore aux lois pour apporter une autre touche importante et pour montrer toute la tension, le mouvement permanent contradictoire entre deux pôles, y compris sur la discussion des lois, notamment dans le livre Les lois. Un autre aspect important, c'est de constater, je le rappelle, que ce qui est très troublant dans les lois, c'est que les discussions sur les lois concernant les étrangers incluent dans le dialogue des étrangers clairement pointés comme étrangers, des philosophes par exemple étrangers, et comme je le disais tout à l'heure, se font y compris en terre étrangère, et notamment en Crète. En Crète qui est une terre étrangère par rapport à Athènes. Donc c'est comme si on revient toujours à la même chose, pour Platon, le législateur, pour faire des bonnes lois, devait avoir un écart par rapport à sa cité. Devait avoir un écart, avoir une distance critique par rapport à sa cité, sous peine que si il colle trop à sa cité, en termes de distance géographique, en termes d'entre-soi, eh bien, ces lois ne seront pas justes, exactes et justes, parce qu'elles ne feront que refléter l'opinion. Et que Platon a cette exigence qu'une bonne loi est une loi qui ne traduit pas que l'opinion dominante. C'est en ce sens-là qu'en platonicien conséquent, aujourd'hui, on ne peut que critiquer toute loi qui est dite dans le langage contemporain, loi de circonstance. Parce que les lois de circonstance ne sont jamais que des mauvaises lois qui sont votées par les circonstances. Donc c'est souvent les circonstances, c'est un mouvement d'opinion qui est un mouvement essentiellement émotionnel. Et donc ça, d'un point de vue platonicien, ça sera des mauvaises lois. Et d'ailleurs, c'est bien le problème d'une démocratie d'opinion comme on est aujourd'hui, c'est que ça se traduit par une production exponentielle de lois qui rend à peu près le dispositif législatif incompréhensible par les citoyens. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe aujourd'hui qui est que nul n'est censé ignorer la loi, ce qui est un principe de transparence essentiel, sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne connaît la loi. Parce qu'il y a un empilement de lois qui se sont rajoutées, qui font des exceptions, qui rajoutent des points en fonction de circonstances. La production inflationniste de lois est une catastrophe, par définition. Et ça, si on reste du point de vue de Platon, c'est parce qu'il y a trop de lois depuis trop d'années qui sont des lois de circonstances. Donc, c'est intéressant cette observation que les lois, le livre majeur sur la question des lois, incluent des étrangers qui ont des qualités, disons, de philosophes, et sont réfléchis à distance, pour Platon. Alors, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que dans la pratique d'Athènes, les lois qui ont été légiférées se faisaient comme ça. Hein. Elles se font sur place, hein, bien sûr, par les magistrats. Mais là, Platon essaie de réfléchir à quelles sont les lois justes pour une cité juste. Ceci étant dit, la cité idéale pour Platon est quand même une cité autarcique. L'idéal, c'est l'autarcie. Mais l'utopie de l'autarcie, dit comme ça, tout de suite, on dit « Oh là là, c'est emmerdant, là, Platon, il nous met dans le beau drap. » Mais en même temps, c'est une tentation qu'on a tous, y compris comme un idéal. Je rappelle que toutes les grandes utopies sociales du XVIe siècle au XXe siècle sont des utopies qui construisent des sociétés autarciques. Que ce soit de la cité du soleil tel qu'il la nommait de ce premier utopiste de la Renaissance qui est un moine dominicain qui s'appelle Domenico Campanella, qui a écrit ce livre important qui s'appelle La Cité du Soleil. D'ailleurs, d'aucuns font l'hypothèse, pour dire l'influence que ça a pu avoir à l'époque, que si Louis XIV se fait appeler le roi soleil, il y a une influence de Campanella. Et la cité du soleil, il la pense sur une île. Comme si l'insularité garantissait effectivement une autarcie qui était conforme à un idéal de société. Mais à un autre niveau, beaucoup plus près de nous et de façon plus microscopique. Toutes les communautés de retour à la nature des années 70-80, en France ou ailleurs, se sont pensées sur un modèle autarcique. On ne veut plus dépendre de la société environnante qui est extérieure. On ne veut plus dépendre d'éléments exogènes. Mais ceci pour dire que cet idéal d'autarcie qu'on trouve chez Platon, c'est un idéal qui court jusqu'à aujourd'hui et même chez ceux qu'on considérerait comme des gens ayant des bonnes intentions et des bonnes pensées. Alors, pourquoi ? Pourquoi cet idéal d'autarcie ? Parce que, malgré tout, Platon considère, en dernier ressort, que la perméabilité à l'étranger, à la venue des étrangers, est source d'inconvénients majeurs plus que d'avantages. D'inconvénients majeurs, ça peut être des agressions militaires. Alors, notamment, Platon le dit clairement, il y a des raisons économiques et démographiques. C'est-à-dire qu'en gros, pour Platon, la cité doit prospérer. Et si elle prospère, elle croît démographiquement. Et si elle croît démographiquement, il y a un problème de territoire. Il y a un problème de place, d'espace. Donc, il faut s'agrandir. Il faut être en expansion. Et si on s'agrandit, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas 36 moyens. Il faut faire la guerre aux voyants pour conquérir des territoires qui appartiennent aux voisins. C'est à une autre cité. Donc, cette guerre entre cités est un mouvement, je dirais, logique, quasi inévitable. C'est la situation la plus commune. Il y a une autre dimension essentielle chez Platon qui explique l'autarcie. L'autarcie la situe très précisément comme le fait que la cité idéale doit être édifiée loin des mers. Pour Platon, comme pour la plupart des Grecs, la mer est source de danger, de menace. Pourquoi la mer est-elle source de menace ? Non pas en tant qu'élément naturel, physique, quoi qu'encore. Les tempêtes, c'est une chose. Mais parce que sur les mers voguent des étrangers qui sont aussi bien des commerçants qui transportent des marchandises pour les vendre ailleurs que des aventuriers, que des pirates, hein, on va dire des pirates, que des flottes ennemies. Donc plus on est éloigné des mers, plus on est protégé de l'étranger, plus on peut réaliser une forme d'autarcie. Alors, la menace que représentent pour Platon comme pour les Grecs les navigateurs est double. C'est une menace militaire ou d'agression, mais c'est aussi une menace de corruption. Et c'est là qu'on rejoint le fait que les utopies dites sociales, qui voulaient construire une cité idéale, préféraient l'autarcie. Parce que l'étranger qui arrive de l'extérieur, et par exemple par la mer, est soupçonné de corruption. Alors, corruption, dans un premier sens très élémentaire, c'est que cet étranger est souvent un commerçant. Il fait du commerce, d'où le fait qu'il voyage par terre et surtout par mer, pour apporter des marchandises qui viennent d'ailleurs et les vendre. Et Platon considère le commerce avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspicion. Platon considère que le commerce et l'argent corrompent. Le commerce et l'argent étant liés d'ailleurs. On fait du commerce pour de l'argent. Le commerce est indissociable d'une circulation d'argent. Donc pour Platon, c'est clair et net. L'argent et le commerce sont un principe de corruption. C'est là qu'on voit l'influence totale de la philosophie grecque et particulièrement platonicienne, par exemple dans la philosophie chrétienne. Si le christianisme considère que l'argent est sale, il faut lire l'héritage platonicien très clairement. Et si dans les évangiles, Jésus balance les étals des commerçants qui sont sur le parvis du temple, c'est bien qu'il considère que ces commerçants qui sont sur le parvis du temple corrompent ceux qui vont vouloir être des bons chrétiens. Donc Jésus, c'est dans le contexte romain, le contexte romain n'étant rien d'autre que la prolongation sur tellement de principes de la cité grecque. Le génie des Romains, c'est de ne rien avoir inventé d'autre que les applications pratiques permettant de donner de la puissance à la cité grecque. C'est-à-dire, les Romains, leur génie prof, ça a été de développer le droit romain beaucoup plus que le droit grec, ça a été de développer des techniques, la roue, etc., la roue à rayons, ça a été de développer des techniques de construction, de développer l'urbanisme, la conception urbaine de la ville, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin que les Grecs sur toutes ces applications pratiques. Mais à part ça, ils n'ont rien inventé. Toutes les catégories de pensée qui façonnent une vision du monde, une vision de l'être ensemble, c'est les Grecs. Les Romains ne font qu'appliquer. Même toute la théogonie, tout le panthéon, tous les dieux romains, je vous le rappelle, mais vous le savez, ce ne sont rien d'autre que les dieux grecs. Donc Jésus est nourri d'un environnement romain, de ce point de vue-là, plus que juif, d'un environnement romain qui lui fait penser spontanément que les commerçants, c'est ça là, ça corrompt. Voilà. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une conséquence platonicienne, au fond. Donc, voilà pourquoi Platon pense que l'autarcie protège les navigateurs, des commerçants, etc. Ensuite, voilà pourquoi aussi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le citoyen athénien ne doit pas travailler et se préoccuper d'économie. Outre le fait qu'il n'ait pas le temps, c'est aussi qu'il ne suffit pas de produire une poterie, il faut la vendre. Il faut faire du commerce, autrement ça ne sert à rien. Donc voilà pourquoi, contradictoirement, Platon admet très clairement que l'idéal d'autarcie ne peut pas être un idéal absolu. L'autarcie doit être mitigée d'ouverture. C'est-à-dire qu'au fond, le circuit clos idéal entre citoyens, Platon dit clairement qu'il doit être ouvert. Il faut ouvrir. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ce mouvement dialectique. Si l'idéal civique, c'est l'oisiveté, vous savez que c'est récent, au fond, que le travail soit valorisé. Hein. C'est lié à la modernité, au temps moderne, c'est à l'humanisme. Et chez les Romains, prolongateurs des Grecs, l'oisiveté, c'était l'osium, O-T-I-U-M. Et l'osium, c'est un idéal. C'est-à-dire que celui qui est condamné à gagner sa vie, c'est pas bien. C'est un homme mineur. Donc si l'idéal est l'oisiveté, il faut bien quand même avoir une vie matérielle. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent à côté, voilà, très clairement. Et voilà pourquoi c'est une autarcie ouverte que prône Platon. Une autarcie ouverte, donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure, il faut des métèques, il faut des étrangers, des esclaves. Sur l'esclave, il est clair qu'il faut un droit pour bénéficier pleinement des esclaves et de son travail. Le métèque, non. Le métèque, Platon dit clairement que dans la cité d'Athènes, du moment qu'elle est juste et démocratique, comme le métèque remplit une fonction essentielle, le métèque à Athènes, pour Platon, ne doit pas avoir besoin de proxène, de proxénos. Il ne doit pas avoir besoin de protecteur parce qu'il n'est pas embêté. Il n'est pas sous le joug de quelqu'un qui voudrait l'acheter. Sauf que, et c'est en même temps la grandeur des sociétés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui à un moment donné ont la sagesse d'avoir à côté de principes fondateurs, d'autres principes pratiques, qui viennent totalement contredire les principes. Et c'est l'équilibre, le mouvement entre les deux qui fait les grandes sociétés. Au banquet d'été, là, j'ai fait venir un historien pour qu'il parle des Mamelouks. Les Mamelouks, vous connaissez peut-être ça, vu que c'est d'actualité, par rapport à Napoléon Ier, parce que ça a duré des siècles depuis le Moyen-Âge. Donc les Mamelouks, ça a été les guerriers cavaliers de Napoléon, qui étaient considérés comme les plus redoutables dans l'armée napoléonienne. Et les Mamelouks, c'est des métèques qui venaient au Moyen-Âge, qui sont venus de l'Anatolie centrale, donc du centre des grands plateaux, du centre de la Turquie, qui venaient probablement de Perse, Turquie, Iran, sans doute Irak, et qui se sont répandus dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'actuelle Égypte, Syrie. Ils étaient redoutés, mais c'était vraiment des métèques étrangers, parce que c'était des cavaliers redoutables. Et l'étude de Julien Loiseau, donc, qui est cet historien, dont le livre s'appelle « Les Mamelouks », montre comment, peu à peu, ils ont été complètement acceptés, intégrés dans les royaumes égypto-syriens, au point que même, pour finir, l'un d'entre eux deviendra le dirigeant suprême. Et de même, Athènes accepte, intègre des grands philosophes, des grands politiques qui viennent d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a ce mouvement. Et au final, l'étranger est parfaitement accepté en tant qu'il est métèque, si, et le droit ne légifère que par rapport à cela, que s'il exerce un métier, donc qu'il remplit une fonction utile, qu'il paye des impôts, qu'il a une bonne conduite, c'est-à-dire des bonnes mœurs, quoi, qu'il ne vient pas troubler l'ordre public. Et alors, il y a une limitation de durée, c'est comme les cartes de séjour. Normalement, il ne peut pas rester à Athènes plus de 20 ans. 20 ans, c'est pas mal. D'autant plus que dans les fêtes, beaucoup resteront, s'ils remplissent les autres conditions, à vie. S'ils ont des enfants, alors ça, c'est le début des problèmes. C'est-à-dire que ça vient menacer le principe de l'eugénia, c'est-à-dire le principe de la race pure. Alors, les mariages mixtes, normalement, n'étaient pas possibles. Mais après, dans les fêtes, il y en avait. C'est toujours posé le problème du nombre d'habitants de la cité. Et Platon le pose. En gros, c'est Jean-Claude Milner qui avait évoqué ça dans certaines de ses conférences. L'idéal platonicien, c'est un nombre du juste milieu, c'est-à-dire il faut croître modérément, c'est-à-dire il faut être nombreux, suffisamment nombreux pour avoir une certaine puissance, mais pas trop nombreux, pas de surpopulation. Alors, y compris ça défini par le rapport entre le nombre d'habitants et la surface, l'espace, le territoire. Le territoire et le ratio entre le nombre d'habitants et aussi les ressources. Mais ça, ce n'est pas défini dans des ratios ou des quotas. C'est une préoccupation qu'il faut veiller à rester toujours dans un nombre raisonnable.